Le gang des essais. Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Je vais montrer justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité.
La plupart d'entre vous le sont.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements clandestins.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres et bienvenue sur Le Gang des Hystéries, émission que vous pouvez écouter sur Micro Rebelle et également sur PFM avec une première diffusion le troisième lundi du mois à 21h30. Pour l'émission d'aujourd'hui, je suis avec Sarah.
Hello.
Et je suis avec Marin.
Salut.
Pour le programme du jour, nous avons parlé du child free, ou les femmes et les hommes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Mais avant tout cela, un petit tour au niveau des agendas et journées mondiales ou nationales. Un petit rappel, on ne l'avait pas fait le mois dernier, mais pour vous dire que le planning familial du Pas-de-Calais qui se situe à Lens, au 45 rue François Gauthier, fait toujours ses permanences. Donc le lundi, le mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h. Donc bien sûr, tout ça avec les consignes de protocole sanitaire qu'il faut bien. Donc on se lave les mains, on amène son masque. Mais une des conseillères pourra vous recevoir en présentiel et pas en distanciel comme on a pu faire pendant le confinement. Voilà, on est aussi disponible. Les conseillères sont aussi disponibles par mail. contact@panicfamilial62.org si vous avez des questions. Et aussi par le Facebook, le Messenger du planning familial, donc le planning familial 62, donc n'hésitez pas. Vous avez aussi le numéro de téléphone dont je ne me souviens jamais, mais donc n'hésitez pas à rechercher sur internet ou dans votre bottin téléphonique si ça existe encore le numéro du planning si vous avez besoin, ou de rechercher sur internet toutes les informations pour ça. Un autre point au niveau de l'agenda, c'est le fameux bar LGBT qui se tient tous les premiers vendredis de chaque mois. Je rappelle, le bar LGBT, c'est un bar où les personnes LGBT+, enfin QIA+, si on veut rajouter encore quelques lettres, et même ce qu'on appelle les alliés, donc les personnes qui s'intéressent et qui supportent la communauté LGBT+, peuvent se réunir dans un endroit qu'on dit safe, donc sûr, avec des petits smoothies, des petits jus de fruits, de quoi grignoter, dans une bonne ambiance pour raconter des soucis personnels, des soucis plutôt sociétal, raconter de tout et de rien, voilà, dans la bonne humeur, toujours avec les règles du protocole sanitaire, parce que ben, il faudrait pas qu'on ait un cluster non plus au local. Mais donc voilà, donc les premiers vendredis du mois, là on se rejoindra le 6 novembre à partir de 17h au local du planning familial 45 rue François Gauthier. On parle maintenant des journées nationales, internationales. Sarah, tu veux bien nous en dire deux mots s'il te plaît?
Alors on a trois journées à noter pour les jours qui arrivent, donc
pour le 26, mois qui suit.
Voilà. Le 26 octobre, on aura la journée de la visibilité intersexe. Donc intersexe, si vous savez ou si vous ne savez pas, en tout cas, c'est de naître avec les deux sexes en même temps. C'est une journée qui peut avoir son importance puisqu'on sait que souvent, il est arrivé que des enfants soient très rapidement opérés avec un choix soit des parents, soit des médecins sur le sexe qui sera défini par la suite. Ça peut créer de graves traumatismes. Donc il faut aussi une connaissance sur le sujet et c'est une journée qui peut aussi permettre de rendre visibles toutes ces problématiques liées au fait de naître avec les deux sexes.
Et c'est considéré par certaines personnes et associations comme de la mutilation.
Tout à fait, oui, c'est ce que je voulais rappeler aussi. Oui, ces actes-là sont considérés comme des mutilations effectuées par les médecins, par le corps médical.
Surtout qu'on sait bien que le corps d'un enfant, ce n'est pas dans les premières années qu'il se construit totalement. Il faut attendre la puberté pour voir ça. Donc, est-ce que sur les premières années, ça change beaucoup l'enfant s'il a les deux? Je ne sais pas comment ça...
Oui, enfin, il y a tellement de questions autour de ça. Il faudra peut-être...
faire une émission.
Voilà, et avoir le témoignage, la présence de personnes les premières concernées pour en parler. Mais ça reste un sujet important, délicat, mais ouais.
Donc le 26 octobre. Le 7 novembre, on a la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Donc une grosse journée aussi dans les établissements, mais aussi au niveau national, sachant que évidemment le harcèlement ne s'arrête pas au milieu scolaire, qu'il continue aussi bien au-delà, puisque c'est un problème lié aussi à notre condition d'être humain, j'imagine. Donc voilà, le 7 novembre prochain. Et enfin, nous avons le 13 novembre, la journée mondiale de la vasectomie. Peut-être un petit mot aussi sur une association dont on parlera prochainement.
Alors déjà, qu'est-ce que la vasectomie ? La vasectomie, c'est le fait de, chez les hommes, de ne plus utiliser... Alors il existe différentes techniques, tout dépend de comment on veut... faire cette vasectomie, mais en tout cas c'est le fait que le garçon ne produise plus d'une manière ou d'une autre de spermatozoïdes, et donc c'est un moyen de contraception définitif, mais cette fois-ci chez l'homme. Wouhou ! C'est pas que la femme qui a le droit à un moyen contraceptif. Donc voilà, et effectivement on voulait parler d'une association qui s'appelle
Garcon.
Alors, pas garçon, mais garcon, et qui bosse en fait sur tous les moyens de contraception masculine qui peut exister, et surtout sur... Alors, bien sûr, il y a la vasectomie, mais il y a surtout le slip contracepteur, qui est en fait un slip qui est conçu pour que les testicules soient placés assez près du corps, un peu l'époque où on parlait du slip chauffant, mais pas aussi fort qu'on peut le penser, mais où en fait, c'est juste une technique, un slip qui va permettre aux testicules d'être assez proches du corps. Et en fait, les testicules, s'ils augmentent en température, à une température proche du corps, ne produisent plus de spermatozoïdes. Donc en fait, c'est une manière naturelle d'avoir une contraception de la part des hommes sans passer par la vasectomie ou des contraceptifs hormonaux, on va dire.
Oui, alors en étant aux personnes qui sont concernées par le fait d'avoir une production de spermatozoïdes pour être inclusive.
Oui, pardon, parce que là on parle de masculin en général, mais c'est à personne avec testicules, ça marche. Donc voilà, et tout ça nous amène au sujet d'aujourd'hui.
Voilà, donc child free, donc choisir librement de ne pas avoir d'enfant. Mais d'où vient ce terme child free ? Donc c'est un terme qui a été pour la première fois utilisé dans les années 70, plus précisément en 1970 aux États-Unis dans le journal Le Time, à la suite de la création de l'Organisation nationale des non-parents, une association fondée à Palo Alto, par Hélène Peck et Shirley Raddle. Donc, c'est une association qui milite vraiment pour le choix, et un choix qui permet d'être assumé et d'être libre. C'est un terme, donc, child free, qui s'oppose au terme childless, qui était utilisé et qui signifie donc sans enfant, mais childless avait une connotation et a une connotation un peu négative, comme si le fait de ne pas avoir d'enfant pouvait être naturellement un manque. Dans le même sens, en français, on utilise le terme nullipare pour évoquer les femmes qui n'ont pas d'enfants, terme qui, comme on peut l'entendre, ne semble pas très positif. Le terme nullipare est plutôt un terme utilisé en médecine. C'est un terme qu'on va entendre notamment du côté... dans les cabinets médicaux, pour les jeunes filles, en tout cas pour les premières contraceptions, ce terme, bah, par exemple, pour ma part, je l'ai entendu lorsqu'il a fallu que je choisisse. Et on m'a parlé notamment, par exemple, du stérilet, où il était dit peut-être que le stérilet n'était pas approprié pour les femmes nullipares, donc sans enfants. Et donc, c'était peut-être pas recommandé, alors qu'en fait, il s'agit simplement d'un a priori, de quelque chose, d'une éducation qui s'est faite... J'imagine au niveau médical qui est vraiment le stérilet n'était pas recommandé, comme s'il pouvait abîmer ou entraver le système reproducteur. Et du coup, en fait, pendant de nombreuses années et encore parfois aujourd'hui, on est contre le stérilet pour les jeunes filles et les femmes sans enfants. Voilà, donc c'est beaucoup de faux a priori et c'est comme si, en fait... On voulait, encore une fois, ne pas permettre une certaine liberté, parce qu'avoir un stérilet, c'est quand même hyper pratique. On ne pense pas à la contraception. En plus, on peut choisir le stérilet au cuivre, donc sans hormones, et on n'a pas y pensé. Donc, c'est comme si, en fait, on voulait encore permettre un certain contrôle, une certaine contrainte dans le fait de penser à la pilule ou alors de penser tout le temps à la contraception. Je voulais juste évoquer ça sur le fait que... au niveau de la contraception, on a là aussi un certain...
Mais c'est surtout par rapport au DIU, donc au dispositif intra-utérin qu'on appelle le stérilet, c'est aussi, ils se disent que parfois ça peut causer des dommages et qui empêcherait la personne si, après cette période de stérilet, si elle veut avoir un enfant... Aussi pour dire, on laisse... Bah, les médecins, en tout cas, ils sont en mode, on laisse une chance à la personne... Si elle change d'avis, de vouloir un enfant après. Sauf que, y a des personnes, moi j'ai eu une gamine il y a quelques années, en sixième, qui m'a dit, mais moi jamais j'aurai d'enfant. Donc déjà, quand on a cet âge-là, la volonté de ne pas avoir d'enfant, c'est qu'on est décidé à ne pas avoir d'enfant. C'est quand même, je pense que ça doit être une réflexion. Marin, tu disais que ta prise de conscience, elle était
même à l'adolescence. Oui, avant cette petite anecdote, mais c'est vraiment de se dire qu'on constate encore une fois que les personnes qui auraient besoin d'un moyen de contraception dit féminin n'ont pas le choix, en fait. C'est surtout ça que je retiens là de vos échanges. Après, si on avance et si on parle un peu, nous, de notre point de là où on se situe par rapport à la question sur le fait de ne pas avoir d'enfant, parfois, comme là tu en parlais pour une jeune élève ou une jeune fille, de le savoir très tôt, moi je pense que ça remonte à l'enfance. Et je me souviens d'un moment de partage d'une de mes amies qui me racontait une séance un dimanche après-midi avec ses cousines où elle se mirait, elle s'admirait dans le miroir avec... des coussins sous les pulls, sous les t-shirts, etc. Et donc, elle se mettait en scène, elle simulait ses grossesses et se projetait en tant que mère et en tant que personne ayant porté un enfant. Et moi, ça me laissait complètement démunie face à... Enfin, voilà, je n'avais ni le référentiel, ni les envies, ni la réflexion. Alors certes, assez jeune, mais j'étais assez... surprise, décontenancée par ce genre de réaction, de comportement pour des personnes qui avaient à peu près mon âge à l'époque. Et première référence dans ma vie personnelle sur le fait d'avoir conscience que je ne me projetais pas du tout, même dans cette attitude de singer un comportement adulte ou autre, vraiment pas.
En tout cas, ce mouvement Child Free s'est vraiment positionné justement par rapport à cette normalisation du fait d'avoir des enfants. Et c'était vraiment, j'imagine, une nécessité forte de la part... comme aujourd'hui, c'est une nécessité de savoir que... C'est tout à fait normal, ou c'est tout à fait, enfin pas normal, c'est pas le terme, c'est pas le terme que je devrais utiliser, mais c'est tout à fait légitime de choisir de ne pas avoir d'enfant et qu'on ne devrait pas avoir un jugement de valeur sur notre choix. Et du coup, cette association, elle s'est vraiment, à l'époque, dans les années 70, érigée par rapport à ça. Et on se rend compte que même encore aujourd'hui, il est nécessaire de toujours expliquer, justifier souvent pourquoi on ne veut pas avoir d'enfant, comme si on devait justifier ça, alors qu'en fait, c'est un choix personnel. personnelle et que c'est pas forcément justifiable. Enfin, c'est comme le fait de choisir, enfin, d'avoir un enfant. Parfois, ça vient de nulle part. C'est plus fort que nous. On peut pas vraiment l'expliquer. Et bah, à l'inverse, choisir de ne pas avoir d'enfant, c'est aussi comme ça.
Oui. Ah oui. Au-delà des termes de c'est égoïste de ne pas en avoir, et puis il y a cette lutte entre ceux qui ne souhaitent pas en avoir et ceux qui souhaitent, celles et ceux qui souhaitent en avoir. Dans les deux cas, l'argumentation enfin, voilà, de l'égoïsme ressort. Oui, chacun se renvoie la balle là-dessus.
Est-ce qu'on évoque rapidement les statistiques ou,
Oui, ça peut nous donner l'idée un peu en France et dans le monde, parce que tu as des chiffres mondiaux, en fait.
Bah, plus sur l'Europe.
L'Europe.
Ouais. Donc, ce sont des statistiques qui ont été établies en 2017. Et moi, je me suis basée sur un article s'intitulant « La proportion de femmes sans enfants a-t-elle atteint un pic en Europe ?» qui a été donc publié en 2017. C'est une étude écrite par Eva Beaujouan, Thomas Sobotka, Susanna Brososko. Voilà, et donc ils ont établi une certaine, enfin ils ont voilà publié des chiffres par rapport à la natalité et au désir d'enfant, et en fait on se rend compte que bah, ce sont des voilà, les statistiques de choix de non fécondité ou pas de choix, ce sont des chiffres qui ont fluctué sur tout le XXe siècle, et que c'est une courbe qui peut faire un U, dans le sens où, par exemple, au début du XXe siècle, finalement, le taux de proportion de femmes sans enfants était assez important. On atteint des chiffres comme entre 17 à 25% de femmes donc sans enfants sur la première moitié du XXe siècle, puisque c'est la période de la Première Guerre mondiale, que ça correspond forcément au départ des hommes à la guerre, et donc à un taux de mortalité assez fort pour les hommes. Et justement, du coup, les femmes n'avaient pas de compagnons bah, pour établir une famille. Donc à cette époque-là, donc, très fort taux de non-fécondité, qui a été rééquilibré par la suite, suite à une politique de...
Nataliste.
Ouais, voilà. Qui...
Encouragement des naissances.
Voilà, exactement. Donc dans les années 40... et dans les années 60, qui du coup a provoqué un pic là où on atteint bah, vraiment un très fort taux de natalité. Et,
c'est le fameux baby boom ou c'est... Bah, c'était quelle année ça à peu près?
Ouais, après la
après
Deuxième Guerre
guerres,
mondiale.
Après la Seconde Guerre, ouais.
Donc l'année 60. Ouais. Mm-hmm. Et donc là, on a une femme sur 10 qui était sans enfant, ce qui du coup est vraiment peu. Et puis finalement, là, à partir des années 80, on constate une baisse à nouveau du taux de natalité, qui correspond aussi, j'imagine, à un questionnement aussi par rapport à la société d'aujourd'hui. Évidemment, tout ceci en Europe est relatif et dépend du pays en question. On voit des différences, par exemple, entre les pays, certains pays de l'Est et certains pays de l'Ouest. Donc, du côté des pays de l'Ouest, on a une très forte, un plus fort taux, on va dire, de femmes qui ne veulent pas d'enfants, notamment par exemple en Allemagne, où là c'est très très marqué, puisque en Allemagne le taux est assez fort, et ça c'est expliqué a priori par le fait, donc il y a eu des études là aussi qui ont été faites, en fait il y a une telle pression sur le fait d'être une mère parfaite que des femmes choisissent vraiment de ne pas avoir d'enfants parce qu'elles ne veulent pas subir cette pression qui leur est faite. Et donc voilà, aujourd'hui vraiment en Allemagne, et d'ailleurs c'est assez, on en parle souvent aussi dans les informations, la natalité est très très faible, et à l'inverse on va avoir plutôt des pays comme la Russie, la République tchèque, la Bulgarie, qui sont des pays avec des très forts taux de natalité. Voilà. Et tout ça, ça a un lien aussi donc, avec l'emploi, l'accès à l'emploi, la pauvreté. Il est dit, par exemple, dans cette étude, que les difficultés les plus importantes sont plus importantes sur le marché de l'emploi dans les pays d'Europe du Sud. Il y a davantage d'inégalités au niveau du genre, et que là, on observe une hausse importante du taux d'infécondité. Donc ça aussi, c'est intéressant. Voilà, du coup...
D'infécondité enfin, ouais. Mais parce que là, c'est pas un choix, c'est un... tu entends infécondité dans le sens...
Stérilité ou...
Bah, du coup, de choix de ne pas avoir d'enfant, parce que c'est trop instable, il n'y a pas d'accès à l'emploi.
D'infécondité volontaire.
Ouais, Bah, en fait, il y a eu une hausse de ce taux-là ces dernières années.
Mais c'est vrai qu'en parlant de ça, d'infécondité... Voir aussi parce que bah, on en reparlait tout à l'heure avec tous les polluants, tout ce qu'on se balance dans la figure. On a de nouveau l'histoire des insecticides qui reviennent, etc. Et tout ça. On a aussi des taux de stérilité, mais là, biologique. C'est-à-dire que les personnes ne peuvent plus vraiment avoir d'enfants.
Oui, subis.
Voilà, qui sont subis par toutes les molécules qu'il peut avoir et qui ont un effet néfaste. Et ça serait intéressant de voir dans cette proportion-là. Mais là, après, ça ne rentre plus dans le cas de ce qu'on a dit.
Child-free.
Voilà, dans cette idée-là, mais plus de... Bah, parce que biologiquement, on ne peut pas, on a décidé de ne pas en avoir.
Bah, là, par rapport aux pays du Sud, là, c'est vraiment l'idée que vu qu'il n'y a pas d'emploi et donc de stabilité financière suffisante, bah, l'idée d'avoir un enfant devient plus compliquée.
Ouais, on voit que la culture, la situation du pays...
Mmh. Parfois, il y a un contexte religieux ou en tout cas une culture familiale, religieuse...
Et familiale aussi qui peut peser parce que c'est peut-être la famille qui impose la religion et donc...
On fait plutôt la promotion d'avoir un enfant que l'inverse. Mais...
Oui, en tout cas, les États, eux, ont des politiques natalistes. Souvent, on voit plus souvent ça. Les rares exceptions...
La preuve, l'Allemagne, qui aujourd'hui a le plus faible taux de natalité en Europe et qui, du coup, craint justement pour le marché de l'emploi par la suite. Enfin, du coup, c'est une vraie question pour l'Allemagne. En tout cas, ça, c'est sûr. Et c'est peut-être pas pour rien aussi que parallèlement, l'Allemagne est un des pays les plus accueillants au niveau de la politique migratoire puisqu'ils ont aussi besoin de main-d'œuvre. Enfin bon, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est sûr qu'au niveau des politiques, la question de la natalité et de la démographie peut se poser.
Pour une fois que la demande des. Enfin, qu'au niveau de l'offre et de la demande de l'emploi, si un jour il y a un pays qui est à l'inverse, ça serait énorme parce qu'on parle du chômage, parce que d'un côté, on diminue le nombre d'emplois parce qu'il y a des suppressions de postes, etc. On ne les recrée pas. Par contre, on a de plus en plus de chômeurs. Et là, si dans quelques années, l'Allemagne, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui travaille, il n'y a pas de chômeurs, enfin, ça serait, ça serait bizarre. Mais bon, ça, c'est autre chose.
Les mécanismes.
Voilà, c'est. Et Marin, tu voulais nous donner certaines raisons. Non, c'était.
Après, c'était sur le point qu'évoquait Sarah, là, sur le point sur lequel tu rebondissais, c'était que les rares exemples de. Politiques menées par des États qui ne seraient pas natalistes ou qui seraient sur le contrôle des naissances, si je ne me trompe pas, c'est la politique de l'enfant unique et ça n'a existé. Mais voilà, parce que j'ai pas de connaissances particulières là-dessus, mais c'était le cas c'est au Japon ou
c'est en Chine. Ça a été enlevé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années seulement. Où je me souviens que suite à ça, quasiment quelques mois après ça, il y avait, ou même c'était encore pendant, il y avait une publicité où ils montraient un couple de Chinois avec... deux filles. Alors oui, déjà qu'on voulait l'enfant unique, mais surtout garçon. Là, c'était une publicité avec deux filles, donc ça avait fait fureur à l'époque.
Mais oui, on peut peut-être parler des raisons, effectivement.
De 79 à 2015 pour l'enfant unique.
D'accord.
Donc ça a duré quand même bien des décennies. Hein.
Merci pour la précision.
De rien. Merci Google.
Petite pause avec le groupe 13e mois et on revient juste après.
Mais c'est qui ce type ?
Une pauvre brebis, sans asile je suis, par pitié ouvrez, me sauvez.
Mmh.
Notre homme est blanc, la quarantaine.
Je fais partie de la classe moyenne.
Il ne se pense pas de mauvaise foi puisque la norme ne se nomme pas.
Je suis ouvert à tout et surtout j'ai un avis sur tout.
Et c'est souvent là où se cachent les loups.
Ah bon ?
Promenons-nous donc dans les bois de sa normalité.
Oui, où les grands méchants loups, ce sont ces salauds de banquiers. Le milieu de la finance qui nous mettent la corde au cou.
Oui, mais c'est nier aussi quand nous peut se cacher d'autres loups.
Militant de première ligne, j'ai déjà bien roulé ma bosse.
Ouais, bah,
de manif en meeting, mes actions relèvent du sacerdoce.
Il se gausse
d'être un modèle de tolérance pour la France. Oui, monsieur, oui.
Mais il y a des sujets qu'il préfère soigneusement éviter. Comprenez qu'entre chien et loup, on a tous des jugements en nous. Ainsi, sous le masque de l'humour, monsieur affiche sa distinction en jouant de calembour pour estomper les dominations. Il se dit pas de ça chez moi. Mais que pense-t-il tout bas? Comment tu regardes en toi si le loup n'y est pas? Ordinaire, qui se croit exemplaire
loup.
Face au racisme et au sexisme, ordinaire
loup.
Il se dit pas de ça chez moi, mais que pense-t-il tout bas? Comment tu regardes en toi si le loup n'y est pas? Ordinaire
loup.
Au fond, ils pensent des autres comme ces Arabes en banlieue.
Comment dire? Ils sont pas vraiment des autres. Ils ont trop de culture de chez eux,
ouais,
voyons. Un peu celle du mal dominant, légitimé par le mariage.
Mais y a pas que dans le Coran que nous sont dictés de tels messages.
Ah oui, c'est vrai.
Cet homme juge les femmes voilées. D'ailleurs, il pense
qu'elles le sont toutes.
Sauf qu'il ne les consulte jamais et ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il parle sans cesse à la place des autres en se pensant être une autre. Et il cultive la méfiance en rejetant la faute toujours sur d'autres.
Oui, c'est les autres.
Sans oser dire les noirs.
Ils sont pas vraiment des noms. Par manque de volonté, faut croire.
Allez,
hein. Vous savez, c'est comme ces autres communautés qui ne font aucun effort pour gommer leurs différences.
Et c'est ça que vous appelez l'égalité des chances. Étrange est sa façon de nier l'échiquier social, de se réfugier dans un imaginaire colonial. Il prétend pourtant être un allié des opprimés, se défendant qu'au fond de lui subsistent de sombres pensées. Il se dit pas de ça chez moi, mais que pense-t-il tout bas? Comment tu regardes en toi si le loup n'y est pas? Ordinaire, qui se croit exemplaire
loup.
Face au classisme ou à l'homophobie ordinaire
loup.
Il se dit pas de ça chez moi, car que pense-t-il tout bas? Comment tu regardes en toi si le loup n'y est pas?
Je suis
ordinaire, se croit exemplaire
loup. Oui, comme un homme de gauche
loup. Il jabote sur les autres autres.
Ces beaufs qui font du tuning.
Ben ouais.
Ils sont pas vraiment des nôtres, pas manque de culture et de bibine. Soit alcoolique ou au chômage, ils se vengeraient tous sur leurs femmes pour compenser les dommages de ce libéralisme sans âme. Ça n'aimerait que le foot et la bière, c'est une question d'éducation.
Mais votre culture ouvrière n'est que celle de la télévision. Des rues des allocs, des patriarches attablés devant des frites saucisses, des ménagères discount et des SDF perchés sur leur 8-6.
Loup.
Entendez-vous les hurlements des loups qui sommeillent en nous? Dans les forêts de nos clichés et dans nos rivières médiatiques, où monsieur ne pêche qu'avec les siens.
Oui, un bon républicain. Je suis pour le mariage pour tous.
Mais vos convictions sont en mousse, car vous sortez les crocs quand votre fils vous parle d'homosexualité.
Quoi? Comment? La chair de ma chair est pédéliquée.
Et ouais, alors?
Et s'il se marie avec un homme, un Rachid ou un Brandon, mais que va dire
sa belle famille, ses collègues ou ses amis? Loup ordinaire, qu'il y a un loup. Qu'il y a un loup en nous, qu'il y a ce loup.
Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
Ah oui, sur les raisons que peuvent, qui sont évoquées lorsque les personnes sont questionnées sur pourquoi
oui.
elles
donc,
ne souhaitent
pourquoi,
pas avoir d'enfants.
Ne pas avoir d'enfants. Donc les raisons évoquées, c'est des raisons qui peuvent être écologiques, puisque aujourd'hui on vit quand même dans une société, enfin dans un monde qui se questionne et qui, le réchauffement climatique, etc. Pourquoi faire un enfant aujourd'hui dans un monde qui peu à peu se désagrège?
Et surtout que sur la courbe démographique, dans 30 ans, parce qu'on est vraiment en 2020, les limites c'est 2050, on serait quand même 2 milliards de plus.
Ouais,
c'est vous avez beaucoup,
fou.
C'est énorme.
Ensuite, il y a la répartition des rôles parentaux. Donc là, l'égalité entre... bah, dans le couple, quoi. Donc, pourquoi faire un enfant si, au final, je vais porter toutes les responsabilités, la charge mentale, tout ça, tout ça. Il y a évoqué également l'historique de la relation avec sa propre mère. Alors là, peut-être dans l'idée de ne pas reproduire ce que nous-mêmes, on a pu vivre dans notre enfance, en se disant que, puisque ça a été difficile, pourquoi refaire reproduire ça à un enfant qui n'a rien demandé ? Et enfin, il y a l'idée aussi de vouloir...
d'avoir d'autres projets de vie.
Voilà.
Et que, voilà,
faire sa carrière.
Les objectifs soient ailleurs.
Oui, ouais, ouais. Donc s'épanouir, avoir une vie pleine et entière aussi à travers d'autres objectifs que la natalité.
Pas que à travers un enfant, ouais. En fait.
Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les différentes raisons évoquées dans l'idée de ne pas avoir d'enfant.
Voilà, il y en a certainement d'autres. Hein, ça nous
oui, ça c'est sûr.
Mais il y a quand même une... on en discutait tout à l'heure aussi, hors antenne, il y avait une forte pression sociale, mais surtout des parents. Quand on dit à un parent... pour n'importe quelle raison, qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas avoir d'enfant, mais c'est de suite... en tout cas, des échos que j'ai, et même du vécu personnel, c'est de suite, mais je ne vais pas avoir de descendance, en fait. C'est, ça reste un blocage sur certaines générations, en mode, la lignée ne va pas continuer. Mais ce n'est pas parce que nous, on n'a pas d'enfant que l'espèce va s'arrêter, même si ça, on est assez nombreux sur Terre pour que l'espèce elle continue. Alors oui, la construction de la famille, c'est quelque chose. Il y a les,
oui,
les enfants,
c'est
les petits-enfants, les
arrière-petits-enfants. Reproduire un modèle de famille avec un héritage, se dire qu'on va laisser une génération derrière soi.
Oui, puis les personnes qui évoquent ça, elles ont envie de mettre en place toutes les choses autour du statut de grand-parent et le fait, elles craignent d'être, de ne pas pouvoir le vivre après... moi, je trouve ça assez, assez fou, quoi, comme posture, comme discours de revendiquer un droit à avoir des petits-enfants ou de se plaindre ou de craindre que son enfant, ses enfants, nés d'enfants à lui et de ne pas pouvoir avoir ce rôle-là ensuite pour ses vieux jours. Enfin, voilà, là, c'est une injonction... Tu as raison, Flo, je pense que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Enfin, c'est des témoignages qu'on croise très, très régulièrement en disant, oh, mon Dieu, je vais pas être grand-mère, je vais pas être papy, je vais pas
et
être...
Et pas que dans le domaine d'une personne qui serait child-free. C'est vraiment
oui,
dans...
Ça, ouais, ça
en général, quand on dit je ne veux ou je ne peux pas avoir d'enfant, c'est limite catastrophique, des héritages, compagnie. Enfin, ça peut aller loin, quoi.
Mais oui, sur le côté de se revendiquer child-free, de ne pas avoir de projet de parentalité, ou en tout cas pour les femmes ou les personnes avec un utérus, de ne pas avoir de projet de grossesse, si on peut le dire comme ça. Ça pour beaucoup, ce qu'on va entendre, ça va être « mais c'est contre nature ». Enfin, voilà, ça, c'est quelque chose que...
Tiens, ça me rappelle quelque chose.
Mille fois, en mille endroits, par mille personnes.
Bah, y a une forte normalisation. En tout cas, c'est pour ça que ça crée une forte pression sur nous, êtres humains, sur l'idée d'avoir un enfant ou pas. Et c'est, cette normalisation, elle se ressent dans toutes les sphères, que ça soit dans la famille, que ça soit dans le travail, que ça soit même au niveau amical, où à partir du moment où on est en couple depuis un certain temps, on va avoir cette question qui revient, comme tu disais. Bon, alors c'est pour quand voilà. Mais c'est assez fou de voir que cette normalisation, elle peut être très insidieuse et que parfois, ça arrive très subtilement et simplement dans des remarques ou des choses très banales.
Le fameux t'as tel âge, faudrait peut-être que tu te mettes, quoi.
Je pense que même enfin je sais pas,
c'est le gros claque, la grosse claque, oui, dans la gueule, mais c'est un...
Par exemple, au travail,
vas-y.
Quand on peut avoir des regroupements entre collègues, on va vouloir créer des événements conviviaux et où naturellement on va créer peut-être par exemple un goûter de Noël dans lequel on va créer une caisse, on va dire, pour participer aux cadeaux des enfants, des collègues. Et cette caisse, elle est commune à tous. sans même se poser la question de savoir, il y aura peut-être des gens qui n'ont pas d'enfants, ou alors qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent pas, etc. Mais par contre, c'est tout à fait normal de donner des cadeaux, de donner de l'argent pour des cadeaux de Noël à des enfants. Donc, je n'ai rien contre l'idée, ça peut être très très bien, mais en tout cas, ça normalise l'idée que, c'est normal d'avoir des enfants.
Si t'as pas d'enfant, tu l'as dans le baba, quoi.
C'est juste.
Mais toi, par contre, t'as donné le petit billet en début d'année en disant que tu cotises pour tout ça, quoi.
Oui, et puis du coup aussi, même socialement, du coup, t'es un peu exclu de ce truc, de ce goûter de Noël où du coup, tu n'as pas d'enfant. Pourquoi aller dans ce goûter de Noël ? Bon, ça peut être très sympa socialement, mais bon.
S'il est fait autour de la présence des enfants, oui, c'est ouais. Assez,
je sais pas, il y a des petites choses comme ça qui peuvent arriver, et puis à partir du moment où on va les questionner, ça va être tout de suite pris assez violemment de la part justement de ces parents-là qui ont instauré ce rituel, et ça va être très très mal compris à l'inverse en fait, ils vont se questionner, mais pourquoi ? Et finalement, on se pose même pas la question de se dire, mais il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants, ou qui n'en ont pas, ou qui ne peuvent pas, je sais pas. Voilà, la normalisation,
Et là, en plus, c'est dans le cadre du travail, c'est même pas la famille, quoi. C'est vraiment au cadre du travail, et que... Après, je pense qu'aussi que c'est un... Comme pas mal de sujets où on parle des signes, il faut qu'il y ait une déconstruction de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a, pas de la formation vraiment pro, en mode, allez, on s'assoit tous dans une salle, on parle de ça, mais petit à petit, de la discussion entre collègues ou dans la famille, en expliquant les raisons, mais posément, pas que ça commence à partir en...
Bah oui, oui.
En engueulade et en cassage de vitres, parce que ça crie tellement dans la maison que voilà. Mais c'est des questions de déconstruction, de se dire que il y a des raisons qui font que la personne ne veut pas avoir d'enfant.
Et sans
que ça crée d'hystérie par
la
suite.
Mais le fait même d'évoquer le fait que ça peut créer justement des remous ou justement des accros, ça prouve quand même à quel point cette question d'avoir des enfants ou pas est assez... je sais pas, c'est quand même fou d'en arriver à se dire ça peut créer des accros si on va être contre l'idée d'avoir un enfant. C'est dingue. C'est un choix personnel. Et donc, ça prouve aussi que derrière, il y a quand même une valeur qui est mise à l'idée d'avoir un enfant. C'est de se dire, quand même, j'ai eu un enfant. Et donc, du coup, ça veut dire que je suis légitime, que j'ai un poids aussi dans la société. Et
que je me suis réalisée complètement. Il y a aussi pour certaines personnes cette idée-là qu'on va trouver légitime quand la personne le formule, mais dont le regard peut être hyper négatif sur une personne qui ne serait pas passée par la maternité. Avec éventuellement du dédain, et du mépris ou de la critique sur la personne qui n'est pas et totale, complète et réalisée.
Ça dépend les franges de la société aussi. Parce que quand j'étais stagiaire, on nous a montré un peu les personnes qui étaient en grande pauvreté. Mmh. Et il y avait un témoignage d'une maman qui avait 4 enfants. Et les garçons, même si ce n'étaient pas les plus âgés, travaillaient, avaient un petit travail, même en passant par une alternance ou un bac pro. Et elle disait, mes filles, elles ont chacune 2 enfants, c'est bien.
Oui.
Donc dans cette situation-là, l'important, c'était que les femmes, les filles en tout cas de cette femme, aient des enfants. Et là, on voit où on se dit, ça va très loin, il faut...
Et puis la question du poids, il est sur quelles épaules on ne l'a peut-être pas assez souligné
au début.
C'était
juste pour revenir sur ce que tu disais, sur la légitimité. Pour exemple, moi, ma mère m'a dit un jour que c'est très subjectif, mais elle s'est sentie vraiment légitime dans sa propre famille, dans le rapport qu'elle avait elle-même avec ses propres parents, donc mes grands-parents. Elle s'est sentie bien et vraiment les pieds solides dans ce qu'elle était à partir du moment où elle a été mère. On l'a regardée d'un autre œil. Tout d'un coup, elle était devenue quelqu'un, un individu qui pouvait prendre part à la société. Mm-hmm. Donc ça, c'est assez fou.
Ouais, d'en arriver là, c'est quand même fort quoi, de dire, voilà, je... tant que t'es pas mère, tu fais pas partie de la famille, quoi, en gros.
Bah, il y avait un peu de ça.
Où t'as un statut intermédiaire, t'es un peu dans les limbes. Ouais. De...
Bah, t'as un peu un statut encore d'enfant, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est t'es l'enfant qui a pas encore eu d'enfant, donc tu peux pas être dans la case adulte. Tu peux pas, quand il y a un repas de famille, être avec toutes les mamans dans la cuisine en train de préparer un repas alors que les papas sont en train de se taper une bière dans le salon.
Oh, joie.
Je caricature beaucoup, mais. Pas,
bah,
tant
pas tant que ça. Hein.
Mais voilà, quoi, c'est vrai que ouais, le poids social est énorme.
Donc il y a ce poids social d'un côté qui est accordé à certaines femmes, mais comme tu le disais, Marin, il y a un autre poids social qui peut être du coup de ne pas valider le désir d'enfant de certaines femmes. On peut parler aujourd'hui bah, de cette tragédie qui arrive quand même dans la communauté ouïghour, où les femmes sont stérilisées de force. Mmh. C'est quand même assez dingue. Et puis, comme tu disais aussi...
C'est vraiment un angle, une partie du sujet qui nous a été remise en tête à la lecture du magnifique ouvrage qui s'intitule « Notre corps, nous-mêmes », dont une traduction très récente a paru aux éditions hors d'atteinte, si je ne me trompe pas. Et voilà, dans son chapitre, donc il y a tout un chapitre indiqué sur produire et se reproduire. Et puis voilà.
Et qui est intéressant parce qu'il est séparé de la partie sexualité.
Voilà, vraiment, on a mis. Les personnes ont choisi vraiment de mettre cette question, ce sujet de la reproduction, juste après produire. Ça a beaucoup de sens, beaucoup de poids, et politiquement, c'est très puissant. Et dans le chapitre « Se reproduire ou pas », il y a une petite partie de texte. Alors, je ne sais pas si je vous en lis ou si j'en fais un rapide récap.
Tu peux lire quelques phrases, on a le temps.
Allez, on va faire cette petite citation. Alors, je vous en lis un long passage, mais je fais rapide. La non-maternité est toujours perçue comme un choix à justifier en opposition à une norme, et il nous est parfois difficile de construire un discours positif sur cette absence de désir ou de parler de ce désir qui ne se réalise pas. Pardon. Les hommes, eux, ne sont pas soumis aux injonctions à la reproduction ou beaucoup plus tard que les femmes. Pourtant, la qualité du sperme diminue avec l'âge et à cause des facteurs environnementaux. On a fait un petit mot tout à l'heure un peu sur ce sujet-là. Et si dans quelques rares contextes, comme certains cadres religieux ou politiques, la non-maternité est acceptée et valorisée pour la grande majorité des femmes, le fait d'avoir une enfant est présenté comme une étape incontournable de la vie, un désir qui viendrait logiquement après avoir terminé nos études éventuelles, être entré sur le marché du travail et avoir rencontré, entre guillemets, la bonne personne. Cette injonction ne s'exprime pas de la même manière pour toutes les femmes. Et là, on en arrive à ce que tu souhaitais souligner, Sarah. Pour certaines, le désir d'enfant est au contraire vu d'un mauvais œil. Les femmes et les hommes transgenres, les femmes détenues, les femmes des quartiers populaires ou immigrées, les femmes roms, les femmes avec un handicap, celles considérées comme « trop jeunes », entre guillemets, ou « trop vieilles », toujours avec les guillemets. Certaines femmes lesbiennes vivent plutôt une injonction à la non-reproduction. Donc voilà, certaines de ces populations ont d'ailleurs vécu des stérilisations forcées et subissent parfois une contraception contrainte. Donc voilà, ce petit paragraphe pour apporter un autre angle, un autre point de vue sur la question. Et effectivement, cette injonction à enfanter, elle n'est pas faite à toutes et tous de la même manière. Là aussi, ça montre encore plus le côté ubuesque et hyper violent de tout ce que ça comporte. Quoi.
Et toutes ces contradictions.
Oui, c'est
fou.
Pour moi, ça finit d'achever le sujet.
Mais ouais. Par rapport à toutes ces contradictions qu'on doit porter, c'est aussi l'idée que... on doit faire des enfants, enfin en tout cas en France aujourd'hui, une femme par exemple de 30 ans, d'un milieu social on va dire plus ou moins aisé, voilà, donc elle a fait des études, puisqu'on lui a dit qu'il fallait faire des études, elle a trouvé un métier, puisqu'on lui a dit qu'il fallait trouver un métier, etc. Elle a suivi cette norme encore une fois qui plane au-dessus de nos têtes, et en même temps du coup elle doit avoir une carrière professionnelle tout en étant aussi une mère pleinement épanouie, pleinement accomplie. Donc c'est à la fois gérer sa vie professionnelle, gérer sa vie de mère, deux choses qui ne sont pas forcément aisée dans la société qu'on a aujourd'hui, puisque rien n'est fait pour faciliter justement la maternité.
Et t'oublies la vie sociétale aussi. Parce que la mère, c'est plutôt... je le vois ça dans le cadre privé, c'est-à-dire s'occuper des enfants et tout ça, mais il y a la relation avec la famille, la relation avec les amis, enfin, tout ce qu'il peut y avoir en dehors du personnel de propre à soi. Donc, en fait, on est sur trois mondes différents. Et puis, ah ben, on ne te voit plus. C'est parce que tu as ton gamin, tu n'as plus le temps pour nous voir. Enfin,
c'est ça.
Oui, ça prend donc, du temps. Donc, c'est normal si d'un côté, parce que tu as un enfant, tu ne peux plus trop voir au début des gens. Quoi.
Bah oui. Donc, toutes ces contradictions se rendent... Enfin, ça donne envie d'exploser, quoi. et puis, bon, je pense qu'aussi, cette question de child-free, elle se pose dans notre société aujourd'hui, à partir du moment où il n'y a pas d'égalité entre les genres. Je pense que cette question se poserait beaucoup moins si, par exemple, avoir un enfant, cette question peut-être qu'elle arriverait moins si on savait qu'il y avait aussi un congé paternité égal pour que celui qu'ont les mères.
On en a parlé
peut-être
la dernière
plus
fois.
Long, bah oui, voilà. Et bon, si on avait aussi une facilité dans la maternité, peut-être que ce serait plus simple pour certaines femmes aussi de gérer tout ça. Mais bon.
Oui, et après, les arguments comme le ressenti, comme oui. Ça ne changerait pas. Enfin,
oui,
voilà,
oui, oui.
Moi, tu peux mettre 10 ans de congé paternité ou de congé maternité ou de congé parentaux pour l'autre parent, ça ne me fera
non,
pas
mais
porter
la, un enfant. La charge mentale et même physique que peut avoir une mère, parce qu'elle, elle a plus de congés et on privilégie le mari qu'il aille travailler alors que madame reste à la maison, alors que peut-être que le mari veut rester à la maison et madame travailler. Enfin, là, on est sur d'autres sujets, mais ouais. C'est vrai que ça ferait avancer le schmilblick, comme on dit. Ça tombe bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter là-dessus ?
Non, mais pour revenir... oui, c'est vrai, t'as raison. là, le sujet, c'est quand même child-free. La question, vraiment, c'est aussi de se dire qu'il faut qu'on puisse avoir le choix de choisir et qu'il ne devrait pas y avoir de normalisation dans le fait d'être mère ou de pointage du doigt à partir du moment où tu n'es pas mère. Enfin, voilà, c'est juste une question de liberté et l'idée, c'est juste laissez-nous faire ce qu'on veut. Quoi.
Être libre de nos choix, de ses choix en tout cas, que d'être mère ou ne pas être mère, etc. Effectivement. Marin, est-ce que tu peux nous rappeler la référence du livre ? On la mettra sur le site de Micro Rebelle, mais...
C'est un ouvrage parmi d'autres, et il est pas, il y a pas énormément de pages sur le sujet, hein. C'est pas Bible sur la question de...
Mais il a l'air très bien, ouais, très bien fait.
Il est juste extraordinaire par ailleurs. Donc c'est Notre corps, nous-mêmes, donc toute récente traduction, parue aux éditions Hors d'atteinte. Donc le sous-titre, c'est Écrit par des femmes pour les femmes. Et on est là dans une acception inclusive de la femme. Donc, des identités autour de ces éléments-là. Donc, c'est plutôt très chouette. Et c'est un bouquin qui a paru pour la première fois aux États-Unis en 73.
Ah oui.
Qui a été traduit et qui a paru en 77 en France. Et puis là, c'est un énorme travail d'un collectif. D'une dizaine de personnes qui se sont attelées à la retraduction, à la réactualisation et qui ont fait un formidable travail de recueil de témoignages parce que tout ça est inspiré de la vraie vie, des vraies paroles, des vraies gens et c'est important.
Super. Et on vous tient au courant parce qu'on fera bientôt une émission.
Avec des témoignages.
Voilà, avec des interviews de personnes qui ont vécu ça. C'est Touga qui nous prépare ça. Et on aimerait aussi que des personnes de l'asso Garcon puissent venir parler des moyens de contraception et comment aussi les hommes voient cette partie-là. Parce que là, on a parlé beaucoup des femmes, mais on rappelle, la contraception, il y en a pour tout le monde. Ce n'est pas que les femmes qui doivent s'occuper de ça. Il y a aussi les hommes qui peuvent aussi. Si un couple ne veut pas avoir d'enfants, c'est peut-être aussi à l'homme de faire des efforts pour que...
Quel que soit le genre, oui, dans les
oui. Que ce soit pas, ce soit pas qu'une personne, mais les deux qui prennent en charge tout ça.
Ok.
Donc affaire à suivre lors de la prochaine émission.
Exactement. Petite pause musicale avec le duo Chill Bump, qui est un groupe de Français de Tours. Ça fait 10 ans maintenant qu'ils font de la musique. Et là, c'est Lily qui nous a conseillé ce titre-là qui s'appelle Snip Snip, S-N-I-P. On vous laisse avec cette musique-là et on revient après.
What if your whole fucking life has been one big waste of time for everybody? Including yourself. I'm all for thinning out the human race. There are just too many fucking people. Anthrax, smallpox. I say bring it on.
Jesus, girl, you gotta believe this love is not in the fetus. Dog knowledge is needed. Tiger not in your penis. Stop knocking up skeezers. If not, then be more than anonymous skeezers. Don't leave your baby seeds to grow nameless. They need a pops, not semen donators. And no strangers, the youth peep the truth. Why even try reproduce to be used as mama dad raised a new bundle of scumbags. The bitch mad over what their parents have done bad. Everyone wanna add their own blood. When blood in your band, the baby's getting no love. Suckers ain't wear rubbers, mothers are giving birth. We can't feed half the people on this freaking earth. It's a curse, a waste, a fucking disgrace. The Pope make Africa procreate, stuff in his face. I suffocate, I'm living in a trap. In a city where individuals never interact. We're in the chat, and that's retarded. Matter of fact, we're all parasites that are stacking garbage. I'm claustrophobic, the fuck out my face. Too many humans all over the place. Vasectomy for everybody. Snip, snip. Castration for everybody. Snip, snip. I'm claustrophobic, the fuck out my face. Too many humans all over the place. Vasectomy for everybody. Snip, snip. Castration for everybody. Snip, snip. Think about the air, our fumes that pollute it. Think about the trash a human produces. You can fill a warehouse for every individual. Stick nothing but disgusting shit in a room. A man goes back for real, kids. So think about the shit the planet has had to deal with. Space is missing crazy bitches. So no, I'm not happy looking at your newborn baby pictures. You have Barbies in the back of your big garden. You fat and you getting larger while African kids starving. They lacking meals, y'all. That is the real problem. They actually feel wrong cause we having a steal problem. We need more options, less costly kids. We need more adoptions at the orphanage. Slip, slip, you hit. It's all to be clear. Help the orphans and care for the poor kids already here, yeah. I'm claustrophobic, the fuck out my face. Too many humans all over the place. Vasectomy for everybody. Snip, snip. Castration for everybody. Snip, snip. I'm claustrophobic, the fuck out my face. Too many humans all over the place. Vasectomy for everybody. Snip, snip. Castration for everybody. Snip, snip. And yo, some hypocrite, some hypocrite. Comes up with a concept, with a concept. Save the planet, the planet. And everybody feels concerned and wanna follow like there's no tomorrow. Question, question. Are you all retarded? It's all about saving ourselves, really. And you know that, and you know that. The planet will live on and the roaches will take over. Over. So I'll tell you how we can save the planet. We all get together and we organize a suicide party.
Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
De retour sur le gang des hystéries avec Sarah et Marin. On passe à la suite.
Mais ouais, la tant attendue chronique badass.
Tawanda.
La chronique badass.
From her, you bitch!
Réveillez-vous, les filles! On va laisser les hommes sauver l'univers?
Dodge this.
Et aujourd'hui, c'est Flo qui s'y colle.
Ouais, je reprends le flambeau pour cette petite chronique badass. Je souhaite, avant cette chronique, remercier tous ceux qui font les petites vidéos sur les réseaux sociaux. Parce que c'est quand même plein de sujets où tu te dis, j'aurais jamais pensé à ça. Ou j'aurais jamais trouvé ça en faisant mes recherches. Donc parfois, je scroll sur Facebook, comme on dit, ou sur Instagram, et je vois des petites vidéos, et ça me donne plein d'idées. Pour rappel, la chronique badass parle de femmes d'exception qui ont de l'importance par leurs faits ou leurs découvertes, mais bien trop souvent écartées volontairement de l'histoire par les hommes. Avant de vous parler de la femme de cette chronique, je voudrais revenir sur un article qui avait fait beaucoup de bruit. En 2019, les 7 plus grandes puissances de ce monde, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis et le Canada, qu'on appelle le G7.
Et la Russie ?
Oui, ben la Russie, c'est plus le G8, c'est le G7, parce que la Russie, depuis que Poutine a voulu avoir son île personnelle dans la mer Noire sans demander l'avis à l'Ukraine, et ben, on leur a dit « vous êtes plus les bienvenus ». Donc ce fameux G7 s'était installé en 2019 à Biarritz pour papoter des affaires de l'Europe et du monde. Cependant, pendant que ces messieurs s'enfermaient à double tour dans leur bureau d'été, Brigitte Macron s'était improvisé guide touristique pour ses homologues invités dans le Pays Basque et invités EES. Oui, parce que le mari d'Angela Merkel ne souhaite pas participer à ce genre de réunion, mais personne n'en parle parce que c'est monsieur qui ne veut pas assister. Par contre, si c'était madame qui ne souhaitait pas assister, on en ferait des pataquès. Et comme si ces mesdames ne sont bonnes que pour faire figuration, elles ne pouvaient pas intervenir politiquement, elles sont juste bonnes à faire dans l'humanitaire et l'associatif. Et les décisions politiques, ça passe après. Heureusement, certaines d'entre elles n'ont pas attendu d'être au XXIe siècle, un siècle qui est de plus en plus un siècle de régression qu'un siècle d'avancée, pour être des femmes de politique et de pouvoir. Pour cela, on doit remonter au XIVe siècle en Écosse. Et non, je ne referai pas la voix de Stéphane Bern. En Écosse, il y a le comte de March, qui s'appelle Patrick de Dunbar, aussi appelé Patrick V, et qui a régné sur ses terres de 1309 à 1368, laissant ensuite à un parent proche peu de temps avant sa mort. Mais on n'est pas là pour parler de lui, mais de sa deuxième femme, Agnès Randolph. C'était la seule héritière de l'île de Man, une île qui se situe entre l'Écosse et l'Irlande du Nord, et bien sûr qui en fit cadeau à Patoche. Après leur mariage, bien sûr, c'est monsieur qui, encore une fois, récupérera les responsabilités de pouvoir. Pendant son règne, en 1338, pendant la seconde guerre d'indépendance de l'Écosse, le roi anglais Édouard III, en soutien aux prétendants au trône écossais, envoya ses forces pour attaquer le château de Dunbar, là où il y a le comte et la comtesse. Sauf que Patoche était absent à ce moment-là, il guerroyait autre part dans le pays écossais. Et donc Agnès se retrouvait toute seule avec ses serviteurs, une centaine de soldats, dans son immense château fortifié. La charge fut menée par William Montagu, qui est un comte anglais et qui avait à sa solde 4000 soldats. Donc comparé aux 100 petits de l'autre côté, on se dit, ça aurait pas dû faire long feu. Mais, en plus, ils ne sont pas allés de main morte pour attaquer le château. Ils utilisèrent des trébuchets, donc c'est les grosses machines qui balançaient les boulets par système de contrebalance. Sauf que les murs étaient très résistants. Agnès, alors, qui était toute seule à diriger le château, vu que son mari n'était pas là, s'en réjouit et elle a même s'en vanté auprès de ses ennemis en agitant un tissu blanc sur les murailles comme pour enlever la poussière déposée par le choc des boulets. Bon, il y a l'autre en face qui n'était pas très content, donc Montagu ne voulait pas en rester là. Les Anglais avaient dans leur geôle un des frères d'Agnès et le comte fit du chantage à la comtesse écossaise. Il disait si elle ne se rendait pas, il ferait exécuter son frère sous ses yeux. Mais Agnès, n'étant pas née de la dernière pluie, lança à son assaillant qu'il n'avait qu'à s'exécuter et qu'il ferait d'elle la seule héritière des terres familiales. Forcément, Montagu n'a pas pu aller au bout de ses dires et a renoncé à cette idée. En dernier recours, il décida d'affamer le château en bloquant les routes qui y menaient. Agnès, en fine stratège, avait un allié qui pouvait ravitailler le château par la mer, car le château était construit sur les côtes de la mer du Nord. Encore sous les traits d'un humour très noir pour ses attaquants, elle fit préparer du pain frais, qu'elle fit par la suite catapulter dans le camp anglais. Là, le comte de Montagu a su à ce moment-là que cette bataille ne serait pas la sienne et leva le camp après quand même 5 mois de siège. Dès ce jour, la comtesse de Dunbar fut surnommée Agnès la Noire, car la couleur noire était synonyme de bravoure, de courage et d'inventivité chez les chevaliers. Donc si les premières dames actuelles souhaitent être braves, courageuses et inventives, qu'elles le fassent sans avoir peur des « qu'en dira-t-on » de leurs partenaires, de la classe politique ou même de la société. À l'image, et là j'en suis sûr que ça va vous étonner,
ouais, là.
De Mélania...
On n'en revient toujours pas.
Oui, mais à l'image de Mélania Trump, qui après quand même deux grosses années où elle a fait figuration à côté de son mari, s'est réveillée en 2018 parce qu'elle a présenté un programme donc, qui est passé en loi de protection de l'enfance sur le cyberharcèlement. Et elle a soutenu aussi un décret contre les séparations qui étaient systématiques entre les parents migrants et leurs enfants.
Ouais. Eh ben... Impressionnant.
Donc oui, la chute était impressionnante, n'est-ce pas?
Non, moi je vais garder Agnès.
Agnès Lanoire.
Ouais, the, par contre, elle est vraiment classe.
The Black Agnès, en anglais, comme ils disent. Donc voilà, dans toutes les époques, il y a eu des femmes d'exception. Et ne vous inquiétez pas, on n'est pas à court d'idées pour vous parler de toutes ces femmes badass.
Tout à fait.
Yep.
C'est le moment de se quitter.
Oui. Mais on déjà. Revient.
Mais oui, le mois prochain, ne vous inquiétez pas, nous revenons. Merci Marin d'avoir été avec nous.
Mais c'est un plaisir.
Merci également à Sarah.
Je dis plein de conneries, mais j'assume.
Bon, on assume tous les trois, toutes les trois au moins. Au moins là, il n'y a pas de souci. Et puis, on se dit au mois prochain.
Ciao.
Ciao, ciao.
Le gang des hystériques.
Le gang. Bim.